Mondoscopie, un magazine coproduit par RCF et Radio Vatican, présenté par David Milia.
Au sommaire de notre magazine cette semaine, le tsunami qui a ravagé les côtes de l'Asie du Sud. Le 26 décembre 2004, les pays de l'océan Indien se sont réveillés meurtris. Un an après, c'est l'humanité tout entière qui porte encore le deuil d'une des plus terribles catastrophes naturelles de l'histoire. C'était il y a un an, pratiquement jour pour jour. Un raz-de-marée faisait plus de 230 000 victimes en Asie. Les côtes de l'Inde, de la Thaïlande, de l'Indonésie et du Sri Lanka ont été dévastées en quelques minutes. Un tsunami qui a déclenché une générosité sans précédent dans les pays occidentaux, les ONG ont très vite recueilli plus d'argent qu'il n'en fallait pour venir en aide aux victimes et pour reconstruire des villages parfois simplement rayés de la carte. Pourtant, un an après, beaucoup de sinistrés vivent encore dans du provisoire. Les fonds récoltés n'ont pas toujours été dépensés à bon escient. Sur le banc des accusés, les ONG, qui pour la première fois de leur histoire, doivent se justifier. Écoutez Marc-Antoine Pérouse de Monclos, il est l'auteur de plusieurs livres sur l'aide humanitaire.
Ça a été l'heure un petit peu de rendre des comptes pour les opérateurs sur place, opérateurs au premier rang desquels il y a évidemment les ONG, les organisations non gouvernementales, mais il faut savoir qu'il y a aussi pour beaucoup aussi des opérateurs gouvernementaux, des agences de coopération, des agences onusiennes ou européennes. Et à l'heure des comptes, là on était un peu plus dans la cacophonie, ce qui reflète d'ailleurs ce qui s'est passé sur le terrain, c'est-à-dire que comme souvent dans des urgences, il y a toujours un problème de coordination, donc ça n'a pas manqué d'apparaître au moment de la catastrophe du tsunami il y a un an. Il y a encore du chemin à faire.
Et qu'est-ce que vous appelez rendre des comptes exactement, plus précisément ?
Alors, il y a deux choses, je crois, qu'il faut distinguer, parce qu'il y a beaucoup de débats en France en ce moment sur la gestion financière des ONG. Donc ça peut être une façon de rendre des comptes suivant ce qu'on appelle le principe d'effectivité, c'est-à-dire est-ce que l'argent donné par les donateurs, par les particuliers notamment, a bien été dépensé sur le terrain ? Parce que là, il y a tout un débat, on s'aperçoit qu'il y a moins de 20% souvent de l'argent donné à l'époque qui, pour l'instant, est utilisé dans les régions touchées par le tsunami. Et l'argument des ONG, c'est de dire que cet argent sera investi sur des dépenses de reconstruction à long terme, sur 10 ans, etc. Bon, mais ça, c'est une chose, si vous voulez. Le rendre des comptes ne doit sûrement pas se limiter uniquement à des aspects purement comptables. Parce que ce n'est pas parce qu'une ONG est bien gérée financièrement qu'elle fait un bon travail sur le terrain. Donc le deuxième aspect qui, moi, me paraît encore plus central sur la façon de rendre des comptes, c'est d'évaluer la qualité du travail de terrain. La façon dont les secours ont été mis en œuvre, est-ce qu'ils répondaient aux besoins observés, etc., etc.
Alors justement, est-ce que ce n'est pas une situation qui va finir par exaspérer les donateurs ? Il y a beaucoup d'argent, ça on le sait, mais sur le terrain, les choses finalement n'avancent pas beaucoup en termes d'aide, alors que cette année, on célèbre déjà, et avec plein de bons sentiments, les 1 an de la catastrophe.
Là, on a beaucoup célébré non seulement les victimes du tsunami, mais aussi les donateurs, les particuliers. Là, on les a vraiment félicités pour leur engouement, mais il faudrait que les donateurs aillent un petit peu plus loin. Quand ils donnent de l'argent à un opérateur sur le terrain, il faut non seulement qu'ils vérifient que l'argent a bien été employé sur place, ça c'est une chose, mais encore une fois, il faudrait même qu'ils s'interrogent sur la pertinence des actions qui ont été menées, parce qu'il y a eu des projets qui ont été redondants, il y a eu des détournements, mais ça c'est des choses qu'on voit un petit peu partout, surtout dans des pays très corrompus comme l'Indonésie, hein, qui régulièrement, chaque année, est classé comme un des pays les plus corrompus du monde. Là, on a un rapport de l'université de Berkeley en Californie qui montre, par exemple, que l'armée indonésienne qui combat une guérilla indépendantiste à Aceh a utilisé l'aide humanitaire pour concentrer les paysans dans des villages, entre guillemets, protégés par l'armée. C'est-à-dire que l'aide a été utilisée de façon stratégique et militaire pour rentrer dans le cadre d'une politique répressive à l'encontre d'une guérilla qu'on voulait isoler par rapport à la population. Autrement dit, vous voyez, c'est beaucoup plus complexe que simplement vérifier que l'argent a bien été dépensé sur place. Il faut voir dans quelle mesure cet argent n'a pas aussi été utilisé de manière, peut-être, à accentuer des inégalités sociales, ce que souligne ce rapport, de manière à servir les intérêts militaires de la clique, des anciens militaires au pouvoir en Indonésie, etc., etc. C'est vraiment là, je crois, le point central de la question, c'est regarder aussi sur place ce qui s'est passé avec cet argent. Pas seulement vérifier qu'il a été bien dépensé, mais vérifier aussi que ça a été utile socialement pour la population victime du tsunami.
Les dons ne sont pas toujours utiles finalement.
Trop de don peut effectivement entraîner beaucoup de dysfonctionnements. Donc c'est assez paradoxal. Il y a des crises comme le Cachemire qui sont mal couvertes financièrement et d'autres au contraire où il y a trop d'argent et du coup ça favorise évidemment les détournements et les dysfonctionnements.
Alors est-ce que la manière de faire de l'humanitaire, selon vous, a changé un an après? Quelles leçons les humanitaires ont-ils tirées de ce raz-de-marée?
Ce qui a peut-être un petit peu changé, c'est que désormais les ONG sentent que non seulement il est de leur devoir de rendre des comptes, notamment à cause de la pression médiatique en ce sens, mais que désormais elles ne sont plus « intouchables », entre guillemets, c'est-à-dire qu'elles peuvent faire l'objet de critiques et qu'elles doivent s'y soumettre, c'est-à-dire que les ONG sont excellentes pour critiquer les entreprises et les gouvernements, et dorénavant on critique aussi les ONG. Donc ça c'est peut-être en train de rentrer dans les mœurs, en tout cas en France. Des leçons, je ne sais pas trop, il est peut-être encore un peu trop tôt pour le dire, il faut attendre la prochaine grosse catastrophe naturelle de cette ampleur pour voir un peu comment réagiront les ONG.
On a quand même eu le Pakistan il n'y a pas si longtemps que ça.
J'y pensais évidemment, mais la grosse différence c'est que là il y a eu très peu de dons et très peu de pression médiatique pour que les ONG rendent des comptes, vu que de toute façon il y avait assez peu d'argent en jeu. Donc j'entendais une catastrophe naturelle d'une ampleur financière comparable à celle du tsunami, si vous voulez, qui oblige en quelque sorte les ONG à rendre des comptes et à faire un travail qui serait de très bonne qualité. Dans le cas du Cachemire, on est dans une configuration assez différente, non pas que la catastrophe n'ait pas fait beaucoup de morts, mais malheureusement dans l'aide humanitaire, ça ne fonctionne pas au nombre de morts, si vous voulez. Il y a des catastrophes qui passent inaperçues, qui sont mal médiatisées ou qui ne suscitent pas beaucoup d'émotions en Occident. Et puis d'autres au contraire qui le sont énormément, et c'était le cas du tsunami.
Et ça tient à quoi cette différence de traitement médiatique d'une catastrophe à l'autre ?
Différence de traitement médiatique et aussi de générosité de la population, ça tient je crois pour beaucoup aussi à l'identification aux victimes. Dans le cas du tsunami, il y a eu des Européens, des touristes européens qui ont été submergés par la vague, par le raz-de-marée. Et en Europe, les Européens se sont dit qu'eux aussi pouvaient très bien un jour être victimes d'un tel raz-de-marée. Après tout, cette espèce de malédiction presque divine, de catastrophe naturelle, ça peut arriver à tout le monde. Donc les Européens se sont plus facilement identifiés aux victimes du raz-de-marée, du tsunami, qu'ils n'ont pu le faire par rapport à un tremblement de terre au Cachemire, qui plus est là en région exclusivement musulmane.
Marc-Antoine Pérouse de Monclos est l'auteur notamment de L'aide humanitaire, Aide à la guerre et de L'aide au tiers-monde, à quoi bon ? Les ONG ont donc peiné à fournir une aide de qualité sur le terrain. Du coup, ce sont les petites associations qui ont pris le relais. Une multitude d'initiatives personnelles ont vu le jour. Yannick Poirier, un jeune breton, est un survivant de la catastrophe. Ce surfeur amoureux des côtes sri-lankaises se démène depuis un an pour reconstruire le village de Midigama, dans le sud du pays, avec des résultats concrets et probants. Tout a commencé le 26 décembre 2004, à 9h du matin, alors qu'il donnait un cours de surf. Écoutez, c'est un témoignage du cœur.
J'étais en cours de surf, parce que je suis professeur de surf, donc j'étais en cours de surf au village d'à côté, à Weligama. La vague est arrivée, c'était pas vraiment une vague à Weligama, c'était la mer, comme si la marée montait. Ça a été très rapide, à peu près en 2-3 minutes, tout a été submergé. Moi, je me suis accroché à un arbre, j'ai envoyé mes trois élèves au large pour qu'ils soient sains et saufs. La suite des événements était assez impressionnante, puisque bon, j'ai réussi à récupérer mon chauffeur de taxi dans un arbre. Mes élèves sont revenus les uns après les autres, mais il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de morts, beaucoup de destruction, puisque la ville de Weligama, il y a eu environ 1000 morts sur une ville de 5000 habitants. Il y avait, je pense, 80% des habitations détruites sur le bord de côte. Et là où j'étais en cours, par exemple, l'eau est rentrée jusqu'à 2 km à l'intérieur des terres, donc beaucoup, beaucoup, beaucoup de destruction.
Quelle a été ensuite votre première réaction ?
3 jours après le tsunami, j'ai appelé ma sœur et je lui ai dit « Ouais, voilà, mon village, c'est vraiment la catastrophe. Est-ce que tu pourrais pas demander à mes amis d'envoyer de l'argent ?» Donc ma sœur a créé une association le lendemain. Depuis, cette association a récolté environ 200 000 euros et on a fait beaucoup, beaucoup de travaux depuis.
Alors, les priorités, une fois que vous avez créé l'association, c'était quoi ? Comment ça s'est passé exactement ?
Pour nous, la priorité numéro un, évidemment, c'était nourrir les survivants. Donc, on a très rapidement été dans les villages à l'intérieur des terres pour acheter du riz, des lentilles, des épices, et on a fait des paquets. Avec la famille avec laquelle je vis au Sri Lanka, on est d'abord allé dans tout le village pour référencer les familles. On a référencé 303 familles qui étaient vraiment dans le besoin. On a donc délivré à chacun un petit ticket et puis ensuite, pendant quasiment 15 jours, on a nourri, amené à manger aux 303 familles et puis aussi des bassines, des nattes pour pouvoir dormir par terre, de la lessive, du lait pour les enfants, tout ce qui était vraiment important pour que les gens puissent au moins rester dans les ruines de leur maison si possible, sinon les gens vivaient au temple et on les nourrissait au temple. En tant qu'association, on était les seuls au village. En revanche, il y avait une très forte solidarité du pays. Il y avait beaucoup de familles singalaises qui venaient de l'intérieur des terres avec du riz, avec de l'eau pour apporter aux villageois des bords de côte. Ça, c'était la première étape. Ensuite, on s'est occupé très rapidement de fournir des uniformes aux élèves à qui manquaient les uniformes, puisqu'il y a des élèves qui ont perdu leur uniforme. On a fait 94 uniformes pour les élèves du village qui avaient perdu leur uniforme pour qu'ils puissent retourner à l'école à la rentrée. Et on a été acheter des paires de chaussures dans la ville d'à côté et on a fourni ça à tout le monde. On est retourné à l'école pour donner ça à tous les enfants.
Alors ensuite, il y a aussi la reconstruction des maisons.
Voilà, ça a été donc là, une fois que la phase d'urgence a été passée, on s'est attelé à la reconstruction parce que notre association fonctionnait très bien. Donc on a commencé par une toute première maison pour deux personnes âgées qui vivaient vraiment dans la misère. Et puis ensuite, on a vu avec le gouvernement local pour l'allocation de terrain, on a eu donc une allocation de 38 lots. On a racheté des terrains par l'association de façon à continuer à construire des maisons. Dans la zone des 100 mètres, nous, on n'a rien construit puisque à l'époque, la loi n'était pas claire, hein, la construction était interdite. Donc nous, on n'a pas voulu investir de l'argent au risque de le perdre dans la zone des 100 mètres. Donc on a vraiment construit des terrains complètement à l'intérieur.
Alors j'imagine que le travail accompli en un an est considérable. Et si vous aviez à comparer une photographie du village du 26 décembre 2004 avec une autre du 26 décembre 2005, qu'est-ce qui vous marquerait le plus?
Je pense que ce qui est encore marquant, c'est qu'on voit beaucoup de dalles de béton de fondation des maisons. Ça reste encore et ça restera évidemment. Le village a été très bien nettoyé. Maintenant, un an après, ce que je pourrais prendre en photo, c'est le quartier qu'on a construit, quoi. En tout, il y a 43 maisons. C'est vraiment un beau travail, quoi.
Ça veut dire combien de personnes relogées?
À peu près 200 personnes, je pense.
Et ils vivent mieux qu'avant ou pas ou...
Ah ouais, beaucoup mieux. La majorité de ces gens-là, c'était des gens, soit ils vivaient dans des huttes, ils avaient des toutes petites maisons faites de briques et de brocs. La majorité, pour ceux qui avaient le plus d'argent, ils avaient réussi à faire les murs, mais ils n'avaient pas fait la toiture. Donc pour la grande majorité, ils vivent beaucoup mieux. Ouais.
Quels sont les besoins aujourd'hui maintenant de la population du village?
On a encore beaucoup de familles à aider, hein. Il n'y a pas simplement l'effet de tsunami, il y a aussi une pauvreté latente au Sri Lanka. Hein. Il y a des familles qui sont pauvres. Notre objectif, c'est de les aider eux. On est en train, à l'heure actuelle, de faire une école maternelle à côté du temple qui accueillera à peu près 60 enfants. J'ai dans l'espoir d'acheter une vanette d'occasion qui servira d'ambulance au dispensaire, parce qu'il n'y a pas d'ambulance ici. Hein. Si vous vous cassez la jambe, c'est en trois roues ou alors il n'y a pas de moyen de transport pour aller à l'hôpital, donc c'est un petit peu difficile.
Est-ce qu'on peut parler d'un avant et d'un après tsunami? Quel est l'état d'esprit des gens aujourd'hui dans votre village?
Il y a certainement une grosse différence. Une chose est sûre, c'est que auparavant, les Singalais avaient déjà peur de l'océan. Ça a largement augmenté leur peur. Mais surtout, il y a un phénomène assez intéressant, c'est qu'ils sont persuadés que ça va revenir rapidement. Donc souvent, les gens posent la question... Tsunami coming.
Alors en ce qui concerne l'aide humanitaire, on a beaucoup parlé de la difficulté à bien dépenser l'argent récolté. Il y a notamment cette fameuse polémique sur l'action des grandes ONG qui n'auraient pas encore commencé à reconstruire. Une polémique qui correspond à une réalité sur le terrain, selon vous?
Non, je pense pas. Faut bien se rendre compte que ce sont des projets de très grande envergure. On parle pas de reconstruire 10 maisons. On parle de reconstruire des villages. Il y a une ville comme Ambantota, il y a eu 7000 morts sur 10 000 habitants. La ville a été rasée complètement. C'était un bombardement nucléaire, quoi. Il ne restait plus rien. Les grandes ONG s'occupent de ces projets-là. Ça représente des groupes de maisons de 400, 500 maisons. Il faut établir des plans, il faut établir des systèmes d'écoulement d'eau. C'est compliqué, ce sont des projets de grande envergure. Ces projets, ils arrivent à jour maintenant. Donc il a fallu le temps de les préparer, le temps de les mettre sur pied et de faire les travaux. Je ne mettrais pas d'eau dans le vase de cette polémique-là. Je pense qu'effectivement, les grosses ONG ont beaucoup de travail. À mon avis, elles ont péché, ces grandes organisations, sur un manque de communication vis-à-vis du public. Elles n'ont pas su montrer ce qu'elles faisaient. Elles n'ont pas su montrer leur travail sur le terrain. Mais moi, je l'ai vu à plein d'endroits. Il y a un travail fou qui a été fait par certaines organisations.
Qu'est-ce qui a changé en vous depuis ce fameux 26 décembre 2004?
Certainement plus de bonheur, je pense. Ça paraît paradoxal, mais je pense que beaucoup plus de bonheur qu'avant, parce que C'est quelque chose que depuis que je suis à Midigama, c'est quelque chose que j'aurais toujours voulu faire, pouvoir aider toutes ces familles pauvres et tous ces gens qui sont dans des situations difficiles. Et de grâce à cette association, et je vais dire grâce au tsunami, même si c'est paradoxal, de pouvoir le faire, ça me remplit de bonheur, c'est certain.
Vous avez l'impression que les gens sont finalement plus heureux, d'une manière aussi paradoxale, après ce passage du tsunami ?
Oui, ouais, je pense, ouais. Il y a du bien dans le mal, toujours. Même quand le mal est très mal, il y a toujours une once de bien. Ce mal a été très, très dur pour le Sri Lanka, mais ça a apporté beaucoup de bénéfices au Sri Lanka, beaucoup de bénéfices à la population, beaucoup de bénéfices au système sri lankais. Je pense que le tsunami a été quelque part une chance pour le Sri Lanka.
Et les rapports humains sont différents dans le village aujourd'hui ?
Il y a quelques jalousies qui ont été créées à cause du tsunami, puisqu'il y a des gens qui sont donc bénéficiaires des programmes d'aide du tsunami, et d'autres dans le village qui vivent au fond du village dans des huttes qui ne le sont pas. Évidemment, ils sont un peu jaloux de ceux qui le sont. C'est quelque chose d'assez naturel. La vie continue ici. Hein. La vie a repris normalement au mois de... à la nouvelle année singalaise, au mois d'avril, à la mi-avril, la vie a repris normalement ici au village.
Alors, une dernière question, quels sont vos projets maintenant ?
Continuer, déjà, continuer ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire terminer cette école maternelle, continuer la construction de maisons. On a une liste de 35 familles à soutenir, donc on va essayer d'aider ces 35 familles. Puis après, bah, retrouver une vie normale, quoi. Se dire que le tsunami, c'est complètement du passé et qu'on retrouve notre petit rythme normal à la maison.
Et vous continuez à surfer ?
Bien sûr, ouais. J'ai des cours, heureusement la saison touristique a repris un petit peu, j'ai quelques cours. J'espère que les touristes vont continuer à revenir et que le futur du Sri Lanka sera bon.
Yannick Poirier, le fondateur de l'association Aidons Midigama. Dirigeons-nous maintenant à des milliers de kilomètres des côtes sri-lankaises, à Gwenou plus exactement. C'est dans cette petite commune du Finistère que la famille de Yannick Poirier a créé l'association Aidons Midigama, une association qui depuis un an a déjà récolté plus de 200 000 euros, une somme impressionnante pour une simple association familiale. Ce succès s'explique par la transparence de l'organisation, les donateurs savent exactement où va l'argent, et puis c'est également une belle histoire de solidarité. Car c'est toute la ville de Gwenou qui a supporté l'initiative de Yannick. Écoutez Yvan Michel, le beau-frère de Yannick. Il s'occupe de la gestion administrative de l'association.
Nous, en Bretagne, eh ben, nous sommes au départ de la création de l'association, hein, puisque très rapidement après le tsunami, Yannick, lorsqu'on a réussi à le joindre au téléphone, nous a dit « Voilà, il faut me donner un coup de main et on va avoir besoin d'argent pour reconstruire. Hein. » Ça, c'était... 3-4 jours après la catastrophe. Donc ici, en France, on s'est mobilisé pour créer cette association. Et puis notre boulot, ben, c'est de collecter les fonds qui seront ensuite renvoyés directement au Sri Lanka pour être utilisés là-bas en fonction des besoins tels qu'ils sont identifiés par les gens qui sont directement sur le terrain.
Et comment l'initiative a-t-elle été accueillie à Gwenou ?
Bah, en fait, on est très connu sur le village, sur la ville. Hein. En fait, c'est une petite ville. Gwenou, c'est une petite ville à la périphérie de Brest. Et l'association s'est vite fait connaître puisque, en fait, on a eu un très fort relais de l'équipe municipale et notamment du maire de Gwenou, qui est également au conseil régional. Hein. Il nous a bien appuyé là dans notre démarche, hein, dans notre création d'association, en simplifiant tout ce qui était démarche administrative, et puis en appelant la population à nous aider dans un premier temps, la population de Gwenou. Hein.
Finalement, c'est un travail d'équipe auquel toute la population a participé.
Bah, en fait, de suite après le tsunami, du fait de la couverture médiatique qu'il y a pu avoir, les gens ont décidé de donner. Bon, les chiffres sont assez importants aujourd'hui. Hein, on en parle régulièrement dans les médias. Je dirais que nous, notre boulot, ça a été un peu de canaliser cette envie là sur Gwenou, cette envie de créer quelque chose, de faire quelque chose. Et en cela, on a été suivi par une bonne partie de la population, puisque les écoles de la commune, la maison de retraite de la commune, les employés municipaux, enfin voilà, tout ce qu'il y avait comme tissu associatif sur Gwenou nous a très rapidement suivi. En fait, aujourd'hui, on est à 250 000 euros à peu près de collectés. L'appel a largement dépassé les frontières de la commune de Gwenou. Nous avons été relayés par pas mal de médias et donc notre appel a été entendu sur une bonne partie de la France puisque je crois que grosso modo, si on regarde à peu près d'où viennent les dons, je pense qu'on doit être à pas loin des 9 dixièmes des départements français qui nous ont adressé des dons. Donc on a largement dépassé les frontières guenousiennes. Ça a intéressé beaucoup de gens qui avaient collecté de l'argent à droite à gauche et ne savaient pas encore à qui les donner, ou des gens qui étaient un petit peu dans l'expectative en se disant « je sais pas si ça vaut le coup que je donne parce que je sais pas où va l'argent », qui en voyant des réalisations très concrètes ont dit « ben tiens, pourquoi pas, voilà une petite asso qui se démène pas mal sur le terrain ». Eh ben, on va leur faire confiance.
Alors, on parle justement beaucoup de cette confiance des donateurs qui se demandent aujourd'hui où est passé l'argent qui a été donné, notamment aux grandes organisations. Quelle a été, pour vous, petites associations, votre principale force ?
L'impression que j'en ai, parce que c'est encore qu'une impression, c'est difficile, parce que nous, les grandes ONG, on ne les côtoie pas, donc on ne sait pas réellement comment elles fonctionnent. Je dirais que le gros intérêt que l'on a dans notre mode de fonctionnement, c'est qu'encore une fois, c'est pas nous, à Gwenou, qui décidons de ce que l'on va faire de l'argent. Ce ne sont pas les donateurs non plus qui vont nous dire, tiens, voilà, l'argent que je vous donne, c'est pour faire telle ou telle action. Nous, on collecte une somme d'argent, et ce sont les populations qui, localement, à Midi-Gama, vont décider de l'affectation de ces dons, en fonction réellement des besoins. C'est-à-dire que c'est pas la peine qu'on reconstruise 50 maisons s'il y en a besoin que de 40. Il faut qu'on mette l'argent là où les gens en ont besoin. Je dirais que c'est peut-être une des originalités des petites assos comme ça, où en fait la collecte et la redistribution se font de manière très très proche des populations. Ça permet aussi aux donateurs, par le biais du suivi que l'on peut mettre en place, par le site internet par exemple, de suivre très concrètement à quoi sert l'argent. Sur une petite asso, c'est plus facile de communiquer que sur les grosses ONG, en tout cas à mon avis. Lorsque les gens nous envoient de l'argent, ils nous envoient toujours un petit mot en disant « je vous envoie de l'argent à vous parce que on sait à quoi il va servir, on sait ce que vous allez faire avec, et puis derrière, on aura de l'information ». On sait aussi que l'argent que l'on donne va directement là-bas au Sri Lanka, qu'il n'est pas dépensé en charge de structure ou autre. Voilà, en général, ce sont les témoignages que l'on reçoit. Hein, donc, je dirais que c'est un petit peu, sans doute, l'originalité des petites assos comme ça.
Yvan Michel, le beau-frère de Yannick Poirier, de l'association Aidons Midi-Gama. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site de l'association, c'est le www.aidons-midigama.com. Et puis pour soutenir l'action de Yannick et sa famille, envoyez vos dons par chèque libellé au nom de l'association Aidons Midi-Gama, mairie de Gwenou, 29 850 Gwenou. Et puis pour conclure ce mondoscopie spécial Tsunami un an après, je vous rappelle les adresses internet d'autres organisations qui s'investissent au quotidien dans l'aide à la reconstruction des pays touchés par le raz-de-marée. Il s'agit du Secours catholique, le www.secours-catholique.asso.fr, Médecins sans frontières, c'est le www.msf.fr, ou encore la Croix-Rouge, le www.croix-rouge.fr. Voilà, c'est la fin de ce magazine. Sachez que vous pouvez retrouver cette émission sur internet, sur le site français de la rédaction de Radio Vatican, le www.radiovaticana.org. Nous mettons à votre disposition la nouvelle technologie des podcasts. Mercredi prochain, vous retrouverez Bernard de Cotigny. Je vous souhaite de passer une très bonne semaine.